VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. En Côte d'Ivoire, trois organisations de défense des droits de l'homme ont annoncé aujourd'hui avoir déposé un recours contre l'amnistie accordée par le président Alassane Ouattara à quelques 800 Ivoiriens, dont l'ex-première dame Simone Gbagbo, poursuivie ou condamnée dans le cadre de la crise ivoirienne. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH, le mouvement ivoirien des droits humains, MIDH, et la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, LIDO, demandent aux autorités ivoiriennes de revenir sur l'amnistie pour garantir le droit à la justice des victimes, selon les termes du communiqué publié à cet effet. La lutte contre les djihadistes au Sahel. Maintenant, la France a fait part hier de sa profonde préoccupation après la diffusion d'une vidéo des ravisseurs de la française Sophie Petronet. Cette dernière a été enlevée il y a bientôt 2 ans à Gao, dans le nord du Mali. Les précisions de Morgane Guiriec.
Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Agnès van der Moel, a exprimé sa profonde préoccupation suite au communiqué publié le 11 novembre par les ravisseurs de Madame Sophie Petronin. Sur cette nouvelle vidéo, l'otage n'apparaît pas physiquement, mais ses ravisseurs évoquent la dégradation de son état de santé. Nous prenons au sérieux leur affirmation que l'état de santé de notre compatriote s'est récemment dégradé et exprimons notre inquiétude, a ajouté la porte-parole du Quai d'Orsay. Les autorités françaises insistent sur la nécessité de sa libération immédiate pour des raisons évidentes d'humanité. Sébastien Chadeau-Pétronin, fils de l'otage, dit craindre pour sa vie. Sur de précédentes images reçues à la mi-juillet, Madame Pétronin, 73 ans, apparaissait très fatiguée, le visage émacié. Elle en appelait au président Emmanuel Macron et disait redouter de devenir une otage sacrifiée après avoir été une otage oubliée. Elle a été enlevée le 24 décembre 2016 à Gao, dans le nord du Mali, où elle dirigeait une association d'aide aux orphelins.
Le président de Guinée-Bissau, José Maria Vaz a quitté mercredi soir le pays après des consultations sur le report des élections législatives du 18 novembre pour aller discuter à Abuja, au Nigeria, d'une nouvelle date pour le scrutin avec la CDAO, l'organisation régionale ouest-africaine. Un report est devenu inévitable en raison notamment du retard pris dans le recensement électoral, censé s'achever le 20 octobre et prolongé jusqu'au 20 novembre. Union africaine, les chefs d'État africains se rassemblent ce week-end à Addis Abeba en Éthiopie pour un sommet extraordinaire de l'Union africaine où ils chercheront à s'accorder sur un projet de réforme institutionnelle de l'organisation porté depuis 2 ans par le président rwandais Paul Kagame. Pour l'instant, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Botswana, les Comores, le Togo et le Ghana ont déjà confirmé qu'ils enverraient leur président. Le Nigeria et le Mozambique délégueront leur ministre des Affaires étrangères et les autres pays n'ont pas encore fait savoir qui va les représenter à la Réunion. Afrique centrale, Cameroun, la justice camerounaise a rejeté la demande de mise en liberté immédiate des leaders sécessionnistes anglophones. Les demandeurs ont été déboutés, annoncent ce jeudi leurs avocats qui comptent se pourvoir auprès de la Cour suprême du Cameroun pour essayer d'obtenir satisfaction. Selon les avocats, les leaders sécessionnistes en question ont le statut de réfugiés, d'où le fait que leur arrestation au Nigeria et extradition vers le Cameroun est une violation de la Convention de Genève. C'est la raison de la requête de la défense pour qu'il soit libéré immédiatement et renvoyé au Nigeria. Ayuk Sisiku Tabe, le président autoproclamé de l'État dit d'Ambazoni, et les 9 autres prévenus sont arrivés aujourd'hui à bord d'un corps de la gendarmerie nationale au tribunal. Ils en sont ressortis 5 minutes plus tard, après un huis clos. Afrique centrale toujours, la Cour constitutionnelle du Gabon, dont le chef de l'État est hospitalisé depuis 3 semaines, a autorisé mercredi soir le vice-président à diriger un conseil ministériel. Depuis 3 semaines, aucun conseil des ministres n'a élu à Libreville. La présidence gabonaise a reconnu pour la première fois dimanche de manière implicite la gravité de l'état de santé du président Ali Bongo Ondimba, victime d'un AVC, un accident vasculaire cérébral. Réaction de l'opposition et de la société civile, la décision de la Cour constitutionnelle est un coup de force.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, plus de 25 000 cas de choléra, dont 857 décès, ont été enregistrés depuis le début de l'année. Selon l'OMS, l'épidémie cette année est caractérisée par une réactivation de cas dans les anciens foyers de 2017 et par la résurgence de nouveaux foyers dans plusieurs provinces. Des détails avec Irénée Hermann Ungbo.
Les populations les plus affectées sont celles qui vivent dans les zones non loin de grands cours d'eau, dans les zones où il y a un manque d'eau potable pour les populations et des problèmes d'assainissement. Selon l'OMS, au moins un cas de choléra a été signalé dans 21 des 26 provinces du pays. Les provinces les plus affectées par la recrudescence de la maladie sont celles du Kasaï oriental, de l'Omami, du Sud Kivu, de la Tangaïka et du Haut-Katanga. Les experts de l'organisation indiquent que plus de 15 700 cas en moyenne sont attendus pendant les 6 prochains mois en RDC. La vaccination des populations à haut risque est dans le plan de riposte. Plus de 6 millions de personnes sont ciblées dans les zones à haut risque avec 2 doses de vaccin OCV d'ici 2020. Outre le choléra, la RDC fait face à sa 10e épidémie de fièvre hémorragique Ebola dans les provinces du Nord Kivu et dans l'Ituri qui a fait 212 morts depuis sa déclaration le 1er août.
Politique en RDC maintenant, après la volte-face des leaders de l'opposition, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, un collectif de candidats à la présidentielle qui n'était pas associé à la désignation de Martin Fayulu comme candidat unique de l'opposition, a présenté, conjointement avec la coalition Lamouka, une requête demandant à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, la radiation d'Emmanuel Ramazani Chadari de la majorité présidentielle. La coalition Lamouka mise sur pied à Genève soutient, rappelons-le, la candidature unique de Martin Fayulu. Eddy Sango a joint l'initiateur du collectif, le candidat Théodore Ngoï.
J'ai suivi tout à l'heure M. Félix qui disait qu'ils avaient fait un pacte et que celui qui allait violer ces pactes ne méritait plus d'être considéré. Et d'ailleurs, ils ont signé un acte d'engagement que la Fondation Kofi Annan a publié, dans lequel ils affirment notamment qu'ils mettraient fin à leur carrière politique s'ils violaient d'une manière ou d'une autre l'accord. Donc, ils lisaient ces comportements. M. Kamerhe a écrit tout un ouvrage pour nous faire croire à nous Congolais que c'est Kabila ou rien d'autre. Donc, aujourd'hui, ils sont dans l'opposition et qu'il tourne les Kazakhs, ça ne nous étonne pas. Mais s'agissant de la désignation de M. Martin Fayulu, que je connais personnellement, dont j'apprécie les qualités d'homme d'État, sa désignation est biaisée. Et 3 autres qui ne sont pas candidats à présent, est-ce que c'est juste de pouvoir dire que c'est l'opposition congolaise qui a choisi Martin Fayulu? C'est faux ça, c'est pas vrai.
Vous êtes allé à la CENI avec certains membres de la coalition Lamouka. Voudrait-il dire qu'on peut s'attendre à un rapprochement ou à une nouvelle coalition, ou allez-vous soutenir Martin Fayulu vous aussi?
Il y a plusieurs hypothèses de travail. On va se rencontrer. Est-ce qu'on va dire, écoutez, M. Fayulu, nous allons vous adopter? Ou bien on va dire, M. Fayulu, nous avons encore la possibilité de choisir notre candidat commun? Ou bien nous passons au vote s'il arrive qu'on vous choisisse, vous, tant mieux? Ou bien, c'est l'hypothèse de départ qui me semble la plus crédible. Ou bien nous dirons, écoutez, nous assemblons contre la machine à voter, contre les élections qui ne sont pas crédibles, pour obtenir que cette machine soit écartée, obtenir que les fichiers soient nettoyés. Mais une fois cet objectif atteint, chaque candidat va devant les peuples.
On est aujourd'hui à quelques jours du début de la campagne et la CENI continue à déployer des matériels pour l'élection. Qu'allez-vous faire?
La campagne est prévue le 22, mais il n'y aura pas une campagne électorale tant qu'on n'a pas enlevé la machine à voter. Nous allons utiliser ce moment pour dire au peuple congolais, voilà, nous constatons que monsieur ici s'entête avec le président Kabila. Ils utilisent les véhicules de l'armée, ils nous menacent. Nous n'allons pas accepter cette élection avec la machine à voter, avec les fichiers corrompus, pour que demain, la communauté internationale nous dise, vous avez participé à cette élection, eh bien, elle est crédible.
Et vous demandez en même temps la disqualification de monsieur Ramazani Chadari.
Monsieur Ramazani Chadari a nommé une équipe de propagande. Dans cette équipe, il y a notamment le premier ministre en fonction. Il y a le ministre de la Sécurité, qui est censé me sécuriser, moi, candidat président de l'UIC. Il y a monsieur Moukoko Samba, professeur d'université, un économiste que j'ai toujours apprécié, qui est maintenant à l'ONATRA. C'est une violation des dispositions de l'article 36 de la loi électorale. Et cette loi électorale donne compétence à la CENI, à la demande de toute personne intéressée ou d'un candidat ou de toute autorité administrative, de radier les candidats qui utilisent les moyens de l'État et les personnels de l'État.
Pasteur Théodore Ngoï, candidat à la présidentielle en RDC, initiateur d'un collectif regroupant plusieurs de ses pairs. Merci de votre attention.